Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et pour se joindre à moi en ce 21e épisode, nul autre que Renaud Giraldo. Salut Renaud.
Renaud et son gin tonic.
Hey, tu bois du gin tonic? Pas encore du gin tonic naturel fait à la main?
Du gin tonic Angava.
Oh!
Distilleur québécois, tout à fait. Ben, oui. Légitime.
Tout à fait légitime. Moi, de mon côté, je bois une grande noirceur de Dieu du ciel. Là. C'est quand l'hiver approche, là, les noirs puis tout ça, là, ça tombe dans mes cordes puis je suis pas déçu. Excellente bière. Momentum. Momentum, là, c'est comme des moments dans l'année où est-ce qu'ils sortent des bières différentes. Puis là, ben, c'est ça que je déguste en ce 21e épisode.
Tu sais que mon cousin est maître brasseur au Dieu du ciel.
Ben, tu m'avais déjà parlé de ça, mais je me rappelle plus s'il était maître brasseur ou s'il faisait juste travailler à Dieu du ciel. Mais...
Non, maintenant, écoute, il brasse.
Il est efficace. Ils font des très bons produits. C'est clairement une de mes micros préférées au Québec. Ils me font penser un
mais
peu à...
Mais ils ont vraiment beaucoup de produits et des vieilles recettes. Là, fait que ça se peut que s'ils la font depuis plus de... Je pense que ça fait 2 ans qu'ils travaillent là. Okay. Officiellement comme brasseur. Avant, ils travaillaient... Il a travaillé comme serveur, puis autre chose, puis helper aussi. Là, mais puis il a travaillé dans d'autres brasseries. Il a fondé Upfen Stark avec son cousin à lui aussi.
Oui.
Puis, le nombre de recettes que Dieu du ciel a est assez impressionnante. Là, puis des fois, ils ressortent des recettes des années 90, puis ils refont.
Ouais, c'est une de nos bonnes micros, vraiment. Ça, ils me font penser un peu à Doug Fishhead, là, aux États-Unis, qui est une microbrasserie qui explore beaucoup là, dans un peu des terrains, là, des sentiers moins battus quand même. Là, fait que, je trouve
les autres sont... En Californie?
Non, je voulais pas me lancer. Doug Fishhead, non, c'est pas en Californie. Non. Mais j'ai un peu honte de ne pas le savoir par cœur, là, mais c'est une super micro là, que j'ai goûté à plusieurs de leurs produits. J'ai un cercle d'amis là, qui adore les bières de micro. Puis aux États-Unis, c'est souvent on pense États-Unis égale Budweiser, là, mais vraiment pas. Là, c'est dans les meilleurs microbrasseurs au monde. Là, ils ont vraiment des bières de fou. Mais au Québec aussi, honnêtement, pour notre expertise, ça commence à être solide. Là, à une certaine époque, c'est un peu, disons, Unibrew qui avait lancé le bal, puis là, il y avait eu, en fait, peut-être même plus Boréal, mais depuis, là, écoute, ça a explosé. Dieu du ciel, je pense qu'ils ont été aussi un peu des pionniers là-dedans. Maintenant, on a le Trou du Diable, le Castor. Écoute, il y en a tout plein.
La micro du Lièvre à Mont-Laurier, justement.
Ouais, du Lièvre, c'est intéressant ce qu'ils font. Mon ami Amaga, qui a la microbrasserie de la même frie, il est en train de tout remonter ça. Avec vraiment des bières succulentes. Fait que, bref, c'est vraiment
Donc, un beau... C'est dans le Delaware.
Ouais, Delaware, exactement. Ouais, c'est ça. Puis c'est super, super bon. Tous leurs produits, là, si tu as la chance de goûter n'importe quoi qu'ils font, c'est super bon. Mais ce n'est pas un épisode sur la bière, quoi qu'on pourrait un moment donné faire un épisode spécial sur la bière, surtout que le temps des fêtes s'en vient. Mais il va avoir un peu une saveur temps des fêtes à notre épisode, Renaud.
Il y a quand même beaucoup de joueurs qui boivent une petite bière avec leur...
Leur draft du vendredi.
Leur draft du vendredi ou leur partie à la maison de playtest.
Mm-hmm. Oui, c'est ça sur NTGO. On va avoir une petite saveur temps des fêtes parce que dans l'épisode, Renaud, on va un peu se demander qu'est-ce qu'on peut faire pendant le temps des fêtes à Magic qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, on va toucher à ce sujet-là. Et on a aussi là, un autre volet à notre épisode qui sera de traiter les produits... En fait, qu'on achète sans les déballer tout de suite, donc on les laisse vieillir comme le bon vin ou comme la bonne bière, qu'on peut laisser vieillir. Mm-hmm. Ça va être bien intéressant tout ça. Mais avant, on voudrait peut-être.
Bien très judicieux ici.
Ah, quand même. C'est pas pour rien, je suis l'animateur. Je suis pas fort à Magic, mais je suis pas bien là-dedans. C'est ça. Mais c'est ça, on voulait toucher à un sujet qu'on avait effleuré la semaine dernière, qui était le World Magic Cup. On avait parlé un peu là, du fait que ça allait être joué, puis qu'on avait parlé des équipes qu'on pensait qu'ils étaient à surveiller. Et entre-temps, il y a eu un petit échange là, avec Alexander Haynes sur Twitter qui se demandait quel était le classement des équipes selon les gens qui le suivent sur Twitter. Et tu as répondu au nom de la balado, ce qui était une très bonne idée. Et tu nous as fait un petit classement, puis on aimerait ça revenir là-dessus. Mais avant de revenir sur le classement qu'on a choisi, j'aimerais ça qu'on déblaye un peu vraiment là, en quelques phrases là, pour dire « The World Magic Cup ». Ben un peu ce que c'est, mais surtout comment on fait pour arriver à se qualifier. Parce qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est possible pour. C'est un open en quelque sorte. C'est possible pour presque n'importe qui de se qualifier sur l'équipe nationale pour le World Magic Cup. Fait que comment ça se passe exactement pour se rendre sur l'équipe?
Oui, ben c'est ça. Avant, il y avait Worlds. Wizards faisait un Worlds à chaque année qui regroupait les meilleurs joueurs, puis aussi une dimension d'équipe nationale en même temps. Okay. C'était comme un gros proto pour finir l'année.
Ouais.
Où est-ce qu'il y avait comme deux tournois à la fois. Un tournoi qui était un proto plus ordinaire, mais avec trois formats au lieu de juste deux formats.
Mm-hmm.
Puis aussi des équipes nationales. Mais là, pour différentes raisons, au départ, c'était peut-être correct, mais ils ont décidé de séparer ça vraiment, de faire World Magic Cup, qui est l'événement pour les équipes nationales, et oui. aussi le World Championship, qui regroupe les meilleurs joueurs, là, maintenant 24, et au début c'était 16, maintenant c'est 24.
Oui.
Il y avait beaucoup plus de joueurs que ça dans le Worlds avant, mais ils ont fait ça. Puis il y a maintenant 4 Pro Tour par année, si je me rappelle bien.
Oui.
Fait que, ce qui fait en sorte que l'offre, finalement, est à peu près la même qu'avant.
Ouais.
Quand il y avait le Worlds. Et là, c'est un peu plus clair que c'est des équipes pour ce tournoi-là, des équipes nationales. Puis, pour se qualifier, il y a le premier... la première personne à être qualifiée, c'est celui qui a le plus de pro points dans le pays à la fin de l'année.
Qui devient le capitaine de l'équipe.
Qui, à la fin de l'année de Magic. Là, fait que l'année de Magic a fini en fin juin, début juillet, quelque chose du genre. De juillet à juillet, dans le fond.
Okay.
Puis, elle est qualifiée automatiquement. Puis, devient en quelque sorte le capitaine de l'équipe.
Mm-hmm.
Puis, ensuite de ça, il y a trois tournois de qualification qui ressemblent beaucoup à la formule ancien PTQ.
Okay.
Donc, sur invitation, entre guillemets, ça prend, pour le Canada, ça prend par exemple 500 Planeswalker points. Ça fait qu'il faut jouer minimalement dans quelques tournois durant l'année pour pouvoir te qualifier pour le tournoi.
Ouais. Ce qui n'est pas tant que ça.
Pas tant que ça, non, c'est ça. C'est pas beaucoup, là. Un Grand Prix, une dizaine de Friday Night Magic, un Game Day, puis...
Puis c'est à ton invitation, là.
Ouais, généralement, c'est à peu près ça.
Okay.
Puis le gagnant de chacun de ces tournois-là, qui sont répartis à l'intérieur du pays, comme il y en a eu un à Montréal, un à Toronto, puis un à Calgary, je pense, ou Vancouver.
Okay.
Chaque gagnant est invité sur l'équipe nationale.
Okay. Donc, un peu comme les pays se croisent les doigts que ce soit les joueurs dominants qui gagnent. Parce que,
les pays ou les nations, là, parce
ouais.
que...
Oui, effectivement.
On leur dit parce que c'est important. L'Écosse a son équipe, les pays de Galles ont leur équipe, mais le pays officiel, c'est Hong Kong a son équipe, mais le pays officiel, c'est la Chine, le pays officiel, c'est le Royaume-Uni. Tu sais.
Oui.
Peut-être faudrait réfléchir à mettre plus de pression encore pour qu'on ait.
La nation québécoise.
Oui, tout à fait. Mais on en a déjà parlé, mais
ben oui.
On en rejase là.
Tout à fait.
Ça pour dire que les équipes en ce moment qui sont formées et qui vont s'affronter du 11 au 13 décembre
ouais.
vont devoir jouer deux formats cette année. Qu'on a eu.
Oui, on a eu
abordé.
Oui, oui.
Le Team Sealed de Battle for Syndicate
ouais.
et Standard Unifié. Pour la portion en construit.
Ouais, et ça risque d'être très intéressant. Et mais comme je disais, c'est que les équipes doivent quand même espérer que dans l'équipe, ce soit des joueurs réguliers du Pro Tour ou qui gagnent les World Magic Cup Qualifier, parce que un jour donné, dans un tournoi donné, ça peut être un petit peu quelqu'un d'inexpérimenté quand même qui réussit à se faufiler. Là. Donc, il peut peut-être avoir certaines équipes qui sont moins solides que d'autres. Ce n'est pas le cas du Canada qui quand même se retrouve avec une équipe très expérimentée.
Bien, je te dirais, comparativement à l'ancienne formule des nationaux, il y a toujours au moins le meilleur joueur, entre guillemets, là,
ouais.
mais le joueur qui est le plus performé durant l'année, si on veut. Qui fait partie de l'équipe. Ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Mm-hmm. Avant, c'était les 4 premiers qui finissaient au tournoi, en un tournoi,
ah, okay, ouais.
tournoi national. Fait que Ouais, non, d'après ça, moi, c'est... les équipes aujourd'hui sont... En tout cas, sont sûrs d'avoir au moins un joueur très performant qui va être capable de donner une impulsion à l'équipe. Comparativement à avant, qui n'était pas toujours le cas, ça pouvait être toutes des recrues là, au sein de l'équipe parce qu'ils connaissent un bon tournoi, justement.
Ouais, OK.
Puis le fait qu'il y ait plusieurs chances, dans le fond, pour chaque... qu'il y ait trois tournois sur trois fins de semaine différentes, ça fait en sorte que les bons joueurs ont un peu plus de chances de se qualifier que s'ils manquent leur coup sur les nationaux. Tu sais.
Ouais, on s'entend parce qu'un joueur, qui, un joueur, mettons, comme, je sais pas, le, bon, Alexander Haynes, mais je pense que Haynes, c'est le capitaine. Est-ce que c'est lui qui avait le plus de pro points?
Non, je crois pas. Cette année, c'est Sean McLaren.
Okay. Bon, mais dans ce cas-là, comme un joueur comme Alexander Haynes, qui lui est un joueur qui est un joueur professionnel, qui peut se déplacer à plusieurs événements. S'il se déplace, disons, à celui de Montréal, qui ne réussit pas, il va avoir en tout cas, il va prendre les moyens pour aller faire le prochain, même s'il est à Vancouver. Tandis que, mettons, un gars de Montréal, ça se peut que celui de Vancouver, ça ne tente pas nécessairement d'aller.
Non, évidemment.
Donc, ça lui laisse probablement trois chances de gagner le tournoi. Puis tant mieux, dans le fond, parce que je pense que c'est ça qu'on souhaite pour avoir le tournoi de meilleure qualité, d'avoir les joueurs les plus dominants possibles dans le pays ou la nation.
Oui, puis en même temps, c'est intéressant pour tous les joueurs d'avoir accès à ça aussi, qu'il y ait une ouverture, tu sais, dans le fond, pour n'importe quel joueur.
Oui, c'est ça, un genre d'open.
Oui, c'est ça, c'est ça. Puis la formule des nationaux n'avait pas ça, cet aspect-là. C'était possible de se qualifier là, quand même relativement facilement pour les nationaux. Puis ensuite de ça, d'avoir une chance de gagner. Mais là, que ce soit juste en jouant régulièrement à Magic, tu peux avoir assez de points pour te qualifier pour le tournoi. Ça rend ça intéressant, cette formule-là.
Ben ouais, c'est clair. Et là...
En fait, c'est une formule peut-être qui devrait être plus... qui devrait être utilisée et transférée vers les régionaux. Les PTQ régionaux.
Ben oui.
On jase.
On jase. Dans notre classement, on a placé les États-Unis, le Japon, le Japon, le Canada, le Danemark, Hong Kong et la Suède, donc en ordre. Si on y allait un peu d'explication de qu'est-ce qui nous fait pencher vers ce classement, quel joueur pour toi se démarque pour amener la balado à se positionner pour ce classement?
Oui, ben mettons qu'on... On commence par la fin, là, la Suède.
Oui.
J'ai mis la Suède parce que Joel Larsson rend beaucoup d'influence.
Il est fort.
Puis sa capacité en standard est indéniable.
Je pense que
tout le monde est capable de dire. Puis il y a une équipe qui va le suivre, tu sais, puis qui va lui faire confiance. Il n'y aura pas tant de dissensions que ça. Puis habituellement, les Suédois font bien en compétition internationale.
Ouais.
C'était bon, mais rendu là, à égalité avec la Suède, en sixième place, là, c'est pas mal. Ça se joue dans les détails, puis... Je vais pas me battre avec n'importe qui pour dire...
Non, c'est clair, parce que Lichitian aussi, qui est pour Hong Kong...
Donc, on pourrait mettre pour les mêmes raisons le Brésil ou...
Ah oui, clairement.
L'Autriche.
Oui, puis la France qui finalement... Tu sais, parce que je regarde un peu le classement, puis quand tu regardes le joueur comme qui est comme qualifié par le National Champion, qui est comme le champion national, qui est le joueur de la nation qui a gagné, qui a le plus de pro points, il y a d'excellents joueurs. Fait que tu sais, c'est ça, c'est... Il y a plusieurs nations qui vont vraiment, je pense, se reposer simplement sur ce joueur-là. C'est pour ça que je regarde l'équipe de la France, ils vont juste s'appuyer sur Pierre Dagen ou à peu près. Les autres joueurs, moi, je ne les connais pas. C'est sûrement des bons joueurs de Magic, mais ce n'est pas des joueurs dominants. Je pense que c'est un peu le cas des équipes comme Hong Kong ou la Suède, où est-ce qu'ils ont des très bons joueurs, mais qui vont un peu s'appuyer sur leur capitaine, je pense, en tout cas.
Mais en tout cas, la dernière année de Larsson est juste incroyable.
Mm-hmm. Oui, enfin.
C'est mon petit coup de cœur.
Bon choix. Donc là, ensuite, on remonte et on s'en va vers le Danemark.
Hong Kong.
Hong Kong. OK, oui, Hong Kong, avec les Chitiennes, ouais.
Oui, mais en standard unifié, la capacité de construire des decks va être très importante. Puis Li Shitian nous a prouvé qu'il était capable d'innover quand il est arrivé en moderne avec son deck Blue Moon.
Mm-hmm.
Il arrive souvent avec des decks qui ont des différences par rapport au deck dominant, mais qui est le deck dominant, mais qui a des grosses différences sur la façon qu'il est construit, puis qui sont innovatrices. Je pense que ça va être une force pour cette équipe-là.
Oui.
Lorsqu'il fait venir le temps de standard unifié. Puis habituellement, il est capable de faire des très bons résultats en draft. J'imagine que en limité, l'équipe devrait s'en tirer quand même relativement bien.
Oui, clairement. Ensuite, le Danemark. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le Danemark? C'est clair qu'on a d'excellents joueurs en Martin Dang, Martin Mueller, Christopher Larsen. Pour moi, c'est trois joueurs qui sont capables. Je connais pas Daniel Lind, qui est le quatrième joueur, mais ces quatre joueurs-là, c'est quatre très bons joueurs. Moi aussi, le Danemark, c'est une équipe qui, je pense, vont vraiment bien faire. Je sais pas s'il y a des précisions sur
cette équipe. Je savais pas que Martin Dang était du Danemark, mais on a des compétiteurs de Pro Tour, puis même un gagnant d'un Pro Tour qui a continué. Puis c'était pas juste. C'est pas juste des feux de paille. On voit qu'ils montrent des résultats constants en Grand Prix aussi. Donc, cette équipe-là est très forte. Puis c'est des gens qui se connaissent, puis qui jouent, puis qui voyagent ensemble. Donc, pour ça, je leur donne des points supplémentaires pour l'esprit d'équipe aussi. Là.
Ouais, ouais, c'est clair. Puis,
des fois, c'est difficile de. Dans des équipes nationales où est-ce que les gens sont décidés par le tournoi de qualification comme ça.
Ah oui.
Des fois, ils se connaissent juste pas.
Mm-hmm. Oui, effectivement.
Par exemple, pour des équipes du Canada, il y avait deux joueurs qui se connaissaient et deux joueurs qui venaient complètement de nulle part et qui se connaissaient pas. Puis c'était difficile peut-être de communiquer.
Mm-hmm.
Ces joueurs-là n'auront pas de difficulté du tout à communiquer. Puis c'est des joueurs qui ont beaucoup de talent. Que...
Oui, absolument. Belle équipe à surveiller. Ensuite, tu es allé pour le Canada. Veux pas, il y a deux très gros noms, Sean McLaren et Alexander Rain, qui vont vraiment, je pense, donner le ton à l'équipe canadienne. Puis clairement, sont probablement sur le radar de toutes les autres équipes, que ça va être une équipe à surveiller. Là.
Mais moi, gros message sur Justin Richardson.
Mm-hmm.
En 2009 ou 2010, je me souviens plus si c'était en 2009 ou 2010, là, mais un des derniers nationaux. Il n'était pas qualifié pour les nationaux. Puis il a fait des tournois de qualification le vendredi, toute la journée.
Okay.
Puis sur le dernier ou l'avant-dernier tournoi de qualification de la journée, là, il y en a eu 30 quelques. Puis à chaque fois qu'il perdait, là, il recommençait d'un autre, il recommençait d'un autre. Je ne sais pas combien que ça y a coupé cette journée-là.
Il s'en foutait, lui, il voulait se qualifier.
Il s'est acharné, il s'est battu, puis il a fini par gagner son invitation. Puis. C'est un gars qui est déterminé,
okay.
qui joue quand même très bien, qui est là depuis toujours, qui a de l'expérience. Mais des fois, il perdait en finale, des finales de PTQ, perdait sur le win and in, des choses comme ça.
Mm-hmm.
Pour lui, ça va être un tournoi à surveiller. Je pense que c'est des fois, comment il dit ça en anglais, pour... les hockeyeurs, des late bloomers.
Ouais, ouais, les late bloomers, ouais.
D'après moi, Justin, c'est
son âge d'arriver. C'est un joueur. OK, ben c'est good. Fait que ça tombe bien pour l'équipe du Canada de se retrouver avec
eux. Oui, oui. Je pense que. Puis il connaît bien Alexander. Fait que ça va bien. D'après moi, ça va bien se passer pour cette équipe-là.
Bonne équipe à surveiller. Et finalement, en tout cas, sur papier, clairement l'équipe à battre, les États-Unis avec Mike Segrist, Tom Martell, Neil Oliver.
Tu vois, Ayn a mis le Japon en premier. Moi, j'ai mis le Japon en deuxième.
Ah, c'est vrai. Ben ouais, pardon. Ouais.
Probablement que c'est ex-aequo, là.
C'est probablement que c'est. Ouais.
Ben, Japon, Watanabe, On sent
force de la nature.
On n'a rien à dire. Ouais. Kenji Tumura, qui fait un retour, qui a plusieurs tapis de proto dans le début des années 2000, en constante rivalité avec John Finkel, puis dans une époque où Kai Boudé dominait la scène.
Ouais.
De Magic.
Ça, c'était débile.
Kenji Tumura était là aussi. Ryuichi Tamada, en ce moment, est un des joueurs de l'heure au Japon. Là,
Son
top 8 récent, puis il a bien fait en Grand Prix aussi. Il y a Suyuyu que je connais pas, mais cette équipe-là, c'est...
Ouais, c'est clair.
C'est juste ridicule.
Ils sont vraiment solides.
De ces joueurs-là. Puis, ouais. La communication aussi, le fait qu'ils soient capables de comprendre l'anglais, mais que il n'y a pas beaucoup d'anglophones qui vont comprendre le japonais.
C'est ça. Est-ce que tu penses que ça a un petit peu un côté...
Je sais que Yuya ne parle pas anglais. Je ne sais pas s'ils sont obligés de parler en anglais.
Non, je ne pense pas.
Durant le tournoi, mais en tout cas, ça doit procurer un certain avantage si les adversaires ne comprennent pas les indications qu'ils disent, parce que tu as le droit de parler pendant le tournoi. Le capitaine a le droit de donner des indications.
Oui.
Ça peut jouer à leur faveur, j'imagine.
Ouais, ça va être très, très serré entre le Japon et l'équipe qui t'a placé en première position. Donc, les États-Unis, j'ai déjà nommé là, les joueurs Mike Segrist, Tom Martel, Neil Oliver. Mike Segrist, qui est vraiment en ce moment, là, il a connu une année extraordinaire. Puis en ce moment, il est vraiment un des meilleurs joueurs de cette planète, là, c'est sûr. Là.
Oui, puis Tom Martel a gagné un grand prix limité de Battle for Zendikar. Neil Oliver a gagné le plus gros grand prix de l'histoire, qui était aussi un grand prix limité.
Ouais, il est fort en limité.
Tom Martel, très fort en Team Sealed aussi, pas juste en limité tout seul, mais en Team Sealed. Neil Oliver aussi, Mike Segrist aussi. Puis Joel Sadowski, on ne le connaît pas beaucoup, mais c'est un joueur sur le circuit de SCG.
Ouais, c'est ça.
Puis la qualité de ce joueur-là n'est pas à faire. Là. Donc, c'est une grosse équipe, mais moi, sur les aspects Mike Segrist pour les decks construits, Tom Martel et Neil Oliver pour l'aspect limité, c'est une équipe complète.
Oui, tout à fait. Puis ça va être un beau tournoi. J'ai bien hâte d'avoir ce que ça va donner. C'est comme on en avait parlé aussi, ça va nous donner un autre regard sur le format je pense, là, a été très dirigé vers les archétypes, mais en sealed, ça doit être team sealed, il y a plus de paquets, il faut qu'on s'éloigne un peu aussi des archétypes, ça ne sera pas des decks aussi linéaires qu'en draft, en tout cas pas à ce qu'on est habitué de voir, c'est sûr qu'on va avoir certains decks très synergétiques, d'autres qui vont devoir explorer des terrains moins connus. Moi j'ai l'impression, en tout cas mon impression, c'est que le deck Converged va peut-être faire... mieux que ce qu'on le voit faire en ce moment. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de deck Converge. Là. Il existe, il est là, la mécanique est là, mais c'est pas un deck qui ressort beaucoup. Et je pense que dans un format où tu n'auras pas le choix de fouiller dans toutes les cartes que tu as dans ton pool pour aller chercher le maximum, bien, il est fort possible que tu dises « OK, on va aller mettre le fixing dans un des decks puis on va essayer de faire fonctionner cette mécanique-là. » Puis moi, je pense que ça va peut-être être un des decks qui va ressortir de ce tournoi-là. En tout cas, je l'espère parce que s'il y a de quoi qui, je pense, a moins bien fonctionné, c'est ça. Et j'espère aussi voir un deck où le vert va aussi là, jouer un rôle, puis ça risque d'être dans le deck Converge. En tout cas, on verra. Mais moi, ce serait... j'avais une petite prédiction de quelque chose d'un peu d'inattendu, parce qu'on s'attend là, que bleu-rouge, Devoid, ça va bien aller. Bleu-noir, ça va bien... ça va exister. C'est des bons decks. On les connaît déjà, mais je suis pas mal sûr que le format... Team Sealed va forcer les joueurs à explorer des terrains un peu moins connus et ça va être bien intéressant.
Comment tu sépares le bleu puis le blanc par rapport à... Ça va être intéressant.
Oui, tout à fait. Super, mais c'est un beau topo, donc j'ai vraiment hâte au 11 décembre. Mais d'ici là, il y a d'autres choses qui vont nous occuper. Écoute, Renaud, je pense que en introduction, j'avais parlé d'aller vers qu'est-ce qu'on pourrait faire à Magic dans le temps des fêtes, mais il me semble que ça ferait plus une belle sortie d'épisode. Je profiterai plutôt d'aller d'une transition vers notre autre sujet qui sera un sujet, je pense, qui est important parce que un des volets à Magic, je pense, qui attire des joueurs beaucoup, qui fait partie d'à peu près tous les joueurs de Magic, c'est le côté finance. Hein? On en a déjà parlé, on a fait un épisode avec Bruno-Pierre Morin, notamment, sur les finances de Magic. Mais, veux pas, c'est un jeu qui implique pas mal de dollars, Magic the Gathering, et il faut être capable de gérer un peu notre portefeuille. Et parfois, hein, je pense que par exemple, dans nos échanges, on essaie tout le temps d'échanger une carte qu'on pense va prendre de la valeur, ou on essaie d'échanger nos cartes au bon moment, juste avant qu'elles perdent trop de valeur, pour essayer de minimiser nos pertes en jouant à Magic et peut-être d'aller faire un profit sur certaines affaires pour nous permettre de jouer à moindre coût. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et une des bonnes façons de faire, c'est d'y aller avec les produits qu'on garde et qu'on ne déballe pas. Un peu comme on dit en intro, comme des bonnes bières ou des bons vins qu'on décide de garder plusieurs années. Une bonne idée à Magic, si on peut se le permettre, c'est de garder des produits, de ne pas les déballer pendant un certain temps, d'en profiter plus tard ou éventuellement peut-être même de capitaliser sur la valeur, dépendamment de ce qu'on décide de faire. Donc, si on se lançait là-dessus, Renaud, parce qu'il y a quelque chose que il y a comme une espèce de petit secret bien gardé, mais toi, tu gardes certains produits pas déballés et tu as gardé notamment des boîtes de Innistrad pour organiser un draft dans longtemps. Donc, en 2018, on est censé drafter ensemble Innistrad. J'ai déjà très hâte. Et c'est une pratique que je trouve qui est fort intéressante. Moi, je suis pas capable. Hein. Je suis comme un petit enfant quand j'ai des cartes de Magic. Il faut tout le temps que je les ouvre. Mais parle-nous de ça un peu, cette idée-là que ça peut être important de conserver des produits sans les déballer dès qu'on les achète.
Ben, d'un aspect plaisir, en fait.
OK, excellent.
Juste pour drafter une série qu'on a aimé drafter.
Mm-hmm.
Comme Innistrad, par exemple.
Ah oui, qui était un des meilleurs formats à drafter, c'est clair. Là. En tout cas, moi, personnellement, c'est dans mon top 3. Là. Ouais.
J'avais beaucoup aimé Retour à Ravnica aussi.
Ouais,
j'ai des boîtes de Retour à Ravnica.
Mm-hmm. Oh yeah.
Des boîtes d'Innistrad. j'ai tout ça. Modern Master 1. Modern Master 2, finalement, je n'ai pas gardé sur le format draft.
Non, ouais, mais
Modern Master 1, c'est extraordinaire.
Ouais.
Juste parce que, oui, tu peux garder des boîtes dans le but de la revendre, mais c'est quand même difficile à prendre parce que le prix devient quand même assez ridicule. Puis
c'est
difficile de trouver un acheteur. Mais c'est parce que toi non plus, tu ne seras pas capable d'en acheter.
C'est ça. Effectivement, c'est ça.
C'est de l'acheter une, c'est de la garder. De toute façon, passer un certain moment, après à peu près 3 semaines de vie, les cartes standards, ça ne vaut plus la peine d'ouvrir une boîte pour la valeur des cartes.
Non, exactement.
Les communes, les uncommunes ne valent plus rien, généralement. Puis,
à peu près toutes les rares sont rendues au prix de bulk, à part bon, les lands et les cartes qui sont surjouées.
C'est ça, à part les cartes qui sont jouées, mais là, même là, tu n'ouvres pas une boîte pour de la valeur rendue là.
Non.
Bon.
Tu es aussi bien d'acheter des singles.
Qu'est-ce que tu fais? Mm-hmm. Si tu veux drafter, ben, tu peux encore drafter parce que c'est ce qui est joué dans les magasins pendant la saison. Tu sais.
Mm-hmm.
Moi, j'achetais une boîte de plus, puis je l'ai mis dans mon garde-robe.
Puis
comme ça, aujourd'hui, si je veux organiser un draft d'Innistrad, ben, j'ai pas besoin de payer 353
Non, c'est clair. Mais c'est une bonne pratique. Moi, je pense que c'est une bonne pratique. C'est juste que ça implique pas mal de sous, mais tu seras jamais perdant parce qu'il y a aussi le fait que, par exemple, là, on prend Innistrad, mais il y a certaines personnes qui bon, voudraient peut-être le redrafter, ils vont te l'acheter pour cette raison-là, mais ça, c'est une série peut-être qui est extraordinaire pour ça, mais il y a plusieurs personnes qui vont se dire, ben moi, je vais m'acheter une boîte d'Innistrad parce que j'ai juste à attraper 2 Snapcaster et 1 Liliana, puis j'ai repayé ma boîte. Bon, on s'entend qu'il faut quand même être très chanceux pour ouvrir une boîte avec 2 Snapcaster et 1 Liliana. Mais hein, la pensée magique, ça existe dans la société, on ne va pas se le cacher. Mais
Ou foil, c'est ça.
Mais c'est clair que mais c'est une pratique qui est commune mettons avec les ne serait-ce que les figurines, tout ça, c'est comme une pratique commune de garder le matériel non déballé pour essayer de faire augmenter la valeur. Puis on regardait un peu tantôt en préparant l'émission le prix de certaines séries, la valeur des boîtes, ça devient c'est comme impressionnant le prix que ça, l'appréciation qu'il peut avoir dans les produits non déballés avec avec le temps, c'est assez fou. Tantôt, tu me parlais de Unhinged. Je sais pas si tu veux revenir là-dessus. Moi, je sais que je joue avec des lands Unhinged. Pour ceux qui ne connaissent pas, Unhinged, c'est une série qui avait été faite un peu en dérision. Ils faisaient des cartes là-dedans un peu humoristiques et tout ça. Et les lands étaient vraiment particuliers. Là. Certains diront beau. Moi, j'ai tendance à dire beau. D'autres, en tout cas, ils étaient full art. Hein. Ils étaient complètement... Il n'y avait pas toute l'espèce de cadre de cartes. C'était l'art prend toute la place. Et moi, je les trouve superbes. Oui, c'est ça. Mais ils sont particuliers. Mais il y a plusieurs joueurs qui les veulent et ils valent quand même cher. Là. Moi, j'en ai acheté plusieurs là, parce que je les trouvais beaux là, quand ils valaient comme 3-4 $. Maintenant, je pense qu'ils sont rendus près de 10 $ chacun. Donc, ça revient un peu tout le temps à ça, hein, Magic. C'est le fait qu'on joue parce qu'on aime ça, mais qu'on est conscient aussi qu'il y a un peu un jeu de bourse là, où les prix fluctuent beaucoup selon les moments de l'année. Et pour les prix, pour les boîtes non déballées, ben, c'est la même chose. Ça a tendance à aller vers le haut. Mais moi, j'aime bien ton approche en disant ben, c'est plutôt quand il y a une série que j'aime drafter, mettons comme le Battle to Zendikar, si on aime le format, moi personnellement, je l'aime beaucoup le format. Sérieusement, je trouve que c'est un format bien le fun. Même chose pour Khans of Tarkir. Quand c'était juste 3 Khans of Tarkir, j'ai trouvé que c'était un super beau format. Ce serait le genre de série que je m'achèterais une boîte de Khans of Tarkir, je la laisserais dormir, puis dans 3-4 ans, je la ressortirais, puis on ferait un draft de Khans of Tarkir, puis je serais bien content justement de ne pas payer. Probablement qu'elle va être rendue 250 $ la boîte. Là,
surtout le fait qu'il y a des fetchlands dedans.
Oui, effectivement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en vue. Il y a des fetchlands dans Khans of Tarkir, donc c'est peut-être une belle série à aller chercher une boîte encore, mais avant que les prix montent trop, parce qu'elle est encore pas mal au prix de détail comme elle était lorsque c'était le format là, qui avait cours. Là.
Alors, faut juste oublier qu'on a ça. Mm-hmm. Puis la mettre dans le garde-robe, puis vraiment l'oublier.
Mm. Mais j'aime aussi ton idée
c'est de. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Là. Faut pas que ça brûle les mains là, d'avoir des paquets chez vous. Là. Mm-hmm. Je sais qu'il y a certaines personnes qui seraient vraiment pas capables, mais. En même temps, ça vaut pas la peine de paquets pour ouvrir des paquets.
Non, c'est clair.
Quitte à les ouvrir durant un draft en disant je garde les cartes.
Ouais.
Le draft est gratuit, je garde les cartes, on les ouvre, on joue avec, puis après ça. Il y a déjà eu un usage, c'est déjà moins pire.
Oui, c'est clair. Mais aussi, j'aime ton approche avec, par exemple, le draft d'Innistrad. Pour les auditeurs, là, c'est Renaud, c'est l'année dernière, je pense, ou en début d'année 2015, tu as invité certaines personnes à un draft pour 2018. Tu sais, c'est dans comme 3 ans, même je pense que c'était quasiment fin 2014, fait que c'est quasiment comme dans 4 ans. Puis à quelque part, je trouvais ça drôle, c'était presque... J'en riais presque, là. Je pensais que c'était un peu une blague, mais en même temps, c'est une bonne idée de dire, regarde, dans 3-4 ans, là, on va drafter cette boîte-là. Fait qu'au moins, la boîte, elle a un but, elle est là, et c'est plus facile, je pense, de la regarder et de dire, OK, non, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. C'est ça, j'ai un engagement, c'est pour 2018, on va l'ouvrir, mais qu'elle soit prête, la boîte. Mais écoute, le jour, parce qu'en ce moment, les boîtes d'Innistrad se détaillent aux alentours autour de 300 $ en ce moment. Mm-hmm. En 2018, d'après moi, ça va être tout près de 500 $. Si c'est la tendance se maintient et, je veux dire, à peu près tous les produits non déballés ont tendance à monter là, comme ça, de manière un peu sans... Le plafond est très, très haut. J'ai l'impression que c'est ça. Là. Fait que, tu sais, ça va faire un peu plus... Je ne sais pas si ça va faire plus mal ou je ne sais pas, mais si tu vas être pas encore plus heureux de l'ouvrir, mais ça va être spécial d'ouvrir une boîte d'Innistrad qui a une valeur marchande de, disons, 500 $ au lieu du 106 $ qu'on l'achetait, là, quand on avait réservé d'avance, ça va être quand même particulier. D'ailleurs, j'en profite, je fais un petit éditorial, Renaud. J'ai le prix des boîtes de Magic a monté substantiellement dans, disons, les derniers 6 mois. Et moi, ça me fait un peu mal. Mais je vais passer par-dessus. Mais écoute, je sais pas. Je veux pas.
Toute chose a une valeur. Le taux de change.
Fait
mal en ce moment.
Ouais, le taux de change fait mal. Puis je comprends, mais payer mes boîtes comme presque 150 $, là, je trouve que ça devient encore plus un bien de luxe. Surtout que je me retrouve avec des cartes que, pour l'instant, je fais juste drafter avec, là, puis après ça, ben, je les mets dans ma collection, puis c'est tout. Moi, je suis vraiment plus un joueur de limité en ce moment. Puis, ben, c'est bon. Fallait que j'en parle. Je trouve que le prix des cartes en ce moment est peu abordable, donc t'espères vraiment ouvrir une carte. Comme là, j'ai ouvert quand même des un Gideon avec... on a ouvert des lands foil. Fait que là, tu sais, ça te donne quasiment envie de revendre tes trucs tout de suite pour repayer tes coûts de ta boîte le plus vite possible. Mais j'aime pas ça rentrer dans ce mode-là, tu sais, dans cette vague-là. J'aime autant garder mes cartes pour les jouer. Mais en tout cas, il fallait que j'en parle. Là, en ce moment, je suis en questionnement justement à quoi faire avec mes cartes quand je les ouvre. Est-ce que je devrais tout de suite capitaliser sur leur valeur pendant qu'ils sont joués en standard parce que je suis plus en train de jouer des modes limités que de jouer construit dans les derniers mois. Si je fais une parenthèse là-dessus, puis pour nos auditeurs qui sont pas dans la même situation que moi, toi, qu'est-ce que tu ferais? Admettons, tu es avec des amis, tu ouvres des boîtes, tu sais que tu n'auras pas nécessairement le temps ou les ressources pour te monter un deck standard. Qu'est-ce que tu fais avec tes cartes que tu ouvres de la série qui est en cours et qu'il y a certaines cartes qui valent très cher, comme par exemple Gideon, qui on sait très bien que aussitôt que ça va comme s'en aller de standard, c'est une carte qui ne maintiendra pas une valeur aux alentours de 40$. Là, c'est une carte qui va valoir 12, 13, 14$. Est-ce que tu vendrais tes cartes pour recouper tes frais limités ou...
Peut-être pas immédiatement, là. Peut-être que je peux attendre, là, mais comme ça dépend du moment, là. Mais oui. Oui, si j'ai aucune attache, avec les cartes en question, je vais m'en débarrasser, là, mais... Ce qu'il faut comprendre du prix en ce moment des boîtes, c'est vraiment le taux de change. Ouais. C'est aussi un petit peu la marge de Wizards qui a changé. Là.
OK.
Mais c'est des facteurs combinés là, du taux de change puis de la marge qui change. Qui fait en sorte que ça devient beaucoup plus difficile pour les marchands d'offrir des boîtes. Au prix qui était il y a même 6 mois ou même.
Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça a monté vraiment drastiquement. Hein, ça, moi, je blâme pas du tout les marchands. Je blâme personne. C'est plus ça oui, change la donne.
C'est vrai que ça change la donne. Puis ça donne pas le goût d'acheter une boîte pour le fun.
Oui, c'est ça. Exactement. Non, c'est ça. Puis aussi, mettons, je draft avec des amis ça nous coûte 10$ chacun. On a 3 boosters, puis on les ouvre, puis on draft, puis c'est parfait. Là, c'est plus 15, OK, d'accord. Mais bientôt, ça va être 20 pour draft. Fait qu'en tout cas, je garde un œil là-dessus. Le seul effet que ça a, c'est le fait que je me demande plus rapidement qu'est-ce que je fais avec mes cartes qui ont de la valeur, parce que je le sais, standard étant ce que c'est, vu que en plus, les rotations arrivent plus vite qu'avant. Je sais que les prix vont varier, puis... Je me demande si du fait que je pense pas être en mesure de monter des decks compétitifs construits, si je devrais pas capitaliser sur la valeur de mes cartes pour être en mesure, en fait, essentiellement de me racheter d'autres paquets parce que ce que je veux, c'est de drafter au moindre coût. Personnellement, c'est que je veux pouvoir essayer de jouer à Magic au moindre coût possible, finalement. Ouais. Mais sinon, peut-être qu'une bonne façon, ce serait justement de m'acheter une boîte de Battle to Zendikar puis la laisser dormir puis d'appeler mes amis pour un draft en 2020. De Battle to Zendikar. Yes. Ben, tandis qu'on parle un peu de ça, qui fait une boîte qui traîne, qu'on laisse non déballer, l'autre topo qu'on voulait parler, c'est Magic dans le temps des fêtes. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais parler
Non, je pense qu'on fait le tour.
On va faire une belle distension. Parfait. Ben, dans le fond, Magic dans le temps des fêtes, parce que veux pas, on entre dans la période, il neigeait aujourd'hui, on rentre dans la période des fêtes.
Oui, ben là, on peut déballer une boîte, mais qui est emballée dans du papier d'emballage de cadeau.
Exactement. Puis ben, l'idée, hein, on pose un peu tout le temps la question, comment on peut faire pour jouer à Magic avec peut-être des gens qui sont soit moins familiers, ou comment on fait pour rendre Magic, peut-être avoir un autre regard sur Magic que le regard compétitif, hein, parce que veux pas la balado, bon, sans qu'on soit des... Toi, t'es un joueur qui a un passé plus compétitif que moi, personnellement, mais en même temps, bon, j'ai quand même toujours été en contact avec la scène compétitive, mais Magic, il y a aussi un côté très... qu'on appelle casual, là, qui est vraiment pour le plaisir du jeu, et moi, je le vis à chaque semaine avec des amis, on se fait des drafts, et pendant le temps de Noël, on a tendance à varier un peu notre approche, et on pensait peut-être discuter de qu'est-ce qui est possible de faire dans le temps des fêtes pour un peu jouer à Magic d'une manière un peu plus ludique, disons. Et une des choses, je pense, qui est une pratique qu'à peu près tous les joueurs devraient avoir, c'est, moi je trouve en tout cas, on devrait à peu près tous avoir un cube. Un cube, ce que c'est, il s'agit de se mettre à peu près 350 cartes, là, une de chacune, donc juste une copie de chaque carte, et de se monter vraiment comme notre propre série, finalement, c'est un peu ça, essentiellement. C'est une bonne façon de pouvoir réutiliser les cartes qu'on a dans notre collection. Moi, je sais que j'ai un cube, j'ai comme un cube symbolique là, qui est un cube que j'ai monté à partir du moment où j'ai recommencé à jouer à Magic, que j'avais arrêté pendant vraiment longtemps. Puis je me suis monté un cube à partir justement d'Innistrad. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis un peu les decks là, dans chaque saison, par exemple. Là. Fait que là, mettons, pendant que Innistrad était en standard avec c'est quoi, c'est Return to Ravnica. Ben là, j'ai comme les cartes majeures de cette époque-là. Puis là, quand ça change, ben je suis les cartes majeures, puis je me suis monté un cube comme ça. Bon, j'ai pas le Power 9, j'ai pas les 9 cartes de feu, mais c'est quand même vraiment le fun. Puis ça fait que dans mon entourage, là, je sais pas toi, Renaud, mais moi, dans mon entourage, j'ai pas mal de gens qui jouaient à Magic il y a longtemps, mais qui ont arrêté pendant un bout, puis qui sont plus vraiment prêts à mettre de l'argent dans ce jeu-là. Il y a d'autres priorités où ils achètent d'autres types de jeux, mais ils savent jouer puis ils aiment ça jouer. Fait qu'un cube, c'est une bonne façon de sortir les cartes. On draft ça et ça permet à tout le monde de jouer et vraiment de faire des belles soirées. En tout cas, moi, les soirées de cube que j'ai faites,
justement,
j'ai
vraiment avec les risques financiers qui sont présents en ce moment, c'est une bonne façon de continuer à jouer. Puis aussi, j'entends souvent dire des gens qui jouent plus compétitif, dire que ben que cube, ça sert à rien de jouer cube parce que c'est pas un vrai format. Puis, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que le fait de jouer cube avec des cartes qui ont des nouvelles interactions qui sont pas nécessairement faites pour être jouées ensemble.
Dans le même environnement, oui.
Ben, ça développe comme une capacité au moment. Sur le moment, avec des nouveaux formats. Ensuite de ça, quand on fait des drafts dans des nouveaux formats, ça permet de repérer plus facilement les bonnes cartes. Mm-hmm. Ça développe les compétences, dans le fond, en limité. Puis,
d'analyse de cartes, oui. Ben
oui. Oui, d'analyse de cartes, puis d'analyse de synergie aussi possible. Puis, pour ça, c'est un format qui enlève toute la pression aussi compétitive, entre guillemets. Là.
Ben oui.
Puis, on s'attarde vraiment à faire un bon deck avec les cartes qu'on voit dans le deck. Il n'y a pas cette pression-là de devoir absolument faire un bon deck comme un draft compétitif peut donner chez certains joueurs. Mm-hmm. Puis ça développe là, certaines compétences justement liées aux limités. Fait que pour ça, je pense que c'est même sain de jouer des formats plus relax comme cube. Mm-hmm. Puis il y a aussi un aspect construit au cube. Pas comme un deck, c'est pas exactement comme un deck, mais quand tu construis un cube, il faut que tu penses à comment ça va se drafter ou comment ça va se jouer en sealed, si tu veux jouer en sealed.
Ouais.
Des aspects de courbe de mana, de couleurs, combien de fixing on veut mettre par rapport aux cartes, combien d'artefacts, combien de... Il y a des questions qu'il faut se poser pour que le cube fonctionne bien.
Oui, clairement.
C'est sûr que ça peut être facile de prendre une liste, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre les cartes que tu as, puis de partir de ça pour utiliser les cartes que tu as déjà, pour payer le moins possible. Compte,
oh boy, mon rouge est complètement débalancé. Là. Mettons, il n'y a rien à faire avec le rouge ou c'est vraiment trop fort. Fait que là, t'as besoin de certaines cartes pour...
C'est ça. Ça ne veut pas nécessairement dire enlever des cartes dans le rouge. Ça peut dire rajouter certaines cartes dans les autres couleurs pour balancer les cartes qui ont protection du rouge, des cartes qui... Ça peut être ça.
Ben oui.
Des cartes qui ont un peu plus de toughness pour pas mourir à des bolts ou des choses comme ça.
Exactement.
Ça peut vouloir dire toutes sortes de choses, mais ça, il faut être constamment en train de se poser des questions sur comment le cube réagit, comment le cube se joue. Puis pour ça, ça développe certaines compétences... en construit, qui peuvent être utilisés après ça dans un construit standard.
Mm-hmm, ben ouais, c'est clair. Puis aussi, ben, pour ceux qui sont sur MTGO, d'habitude, dans le temps des fêtes, il y a un cube de Noël qui est très populaire aussi. Fait que, tu sais, si c'est pas votre cube maison puis vous avez MTGO, je sais qu'il y a un cube de Noël que plusieurs joueurs adorent parce que, bon, évidemment, bon, là, eux autres, souvent il y a le Power 9, mais c'est pas juste pour ça qu'on joue. C'est que, justement, on découvre un nouvel environnement complètement, des nouvelles interactions entre les cartes. Puis comme tu disais, ben ça, c'est une espèce de compétence qu'il faut avoir quand il y a des nouveaux sets qui sortent. Le plus rapidement, on est capable d'identifier les interactions entre les cartes, les synergies, le fait que telle carte en tel format est juste pas jouable ou pas bonne. Une carte qui d'habitude est excellente, finalement, dans un autre format, est juste pas bonne pour telle raison. Mais être capable d'identifier ça, tout ça, c'est le genre d'affaire qui va être utile pour tous les formats.
C'est ça. Puis tu dois discriminer, tu dois faire des choix en cube, comme dans n'importe quel autre format limité. Tu peux pas juste prendre la meilleure carte de chaque du paquet puis finir par jouer. Il y a certains cubes que tu pourrais le faire parce qu'il y a assez de fixing pour le faire, mais habituellement, faut que tu fasses les bons choix, quand même. Puis cette capacité-là de faire les bons choix, de repérer les signaux, de tout ça, ça se fait aussi en cube. Puis c'est pas mauvais de jouer. Ça permet de jouer avec des gens qu'on joue pas nécessairement d'habitude. C'est un bon format.
Oui, j'encourage en tout cas tous nos auditeurs à essayer de se faire un cube. C'est vraiment une bonne façon de valoriser sa collection parce que souvent on a des cartes qui dorment un peu, puis ça nous fait revisiter des cartes qui finalement font plus rien depuis un petit bout, qui dorment dans notre cartable.
À part le packet sleeve.
C'est pas mal le seul investissement.
C'est ça.
À part.
Ça coûte pas grand-chose.
Puis, moi, une autre chose aussi que je fais pendant le temps des fêtes, en fait, ben là, je dis ça, c'est qu'on va le faire pendant le temps des fêtes, mais il y a certaines des fois des séries qui sortent qui sont particulières. Il y a eu notamment le Conspiracy. Et moi, j'ai traité Conspiracy un peu comme un jeu de société, au sens où je l'ai vu comme si je m'achetais un jeu que j'allais pouvoir rejouer avec plusieurs personnes. Donc, plutôt que de juste se séparer les paquets et que les cartes se perdent à gauche et à droite, ben j'ai toutes gardé les cartes. On a fait un draft Conspiracy, puis à la fin, j'ai toutes gardé les cartes. Je les ai sleevées et j'ai ma boîte de Conspiracy. Donc, pendant le temps des fêtes, avec mes amis, à un moment donné, on va sortir le Conspiracy et on va se faire un draft. Puis ça, en tout cas, je trouve que je suis assez content d'avoir fait ça. C'est pas la même chose nécessairement qu'avoir, mettons, gardé une boîte d'Innistrad pas ouverte parce qu'il n'y a pas l'effet d'ouvrir les paquets et tout ça qu'on va avoir, nous, en 2018 avec toi, Renaud. Mais il y a quand même ce côté-là, je pense que c'est intéressant à faire de se dire, ben je garde une boîte, une série, surtout Conspiracy, qui était vraiment fait pour être drafté. C'était vraiment un environnement qui était pensé pour ça. Mais ça fait vraiment un jeu bien intéressant. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire aussi pendant le temps des fêtes avec mon petit cercle d'amis là, qui joue à Magic. Puis c'est encore une fois une façon de ramener des joueurs à Magic, des joueurs de mon environnement qui, eux, ne s'achètent plus de cartes ou sont plus vraiment à l'affût de des formats, ben ils peuvent revenir jouer un soir donné puis avoir du plaisir à jouer à Magic. Puis c'est un peu ça que je souhaite. T'sais.
Tu vois, moi, j'ai fait la même chose avec une boîte de Unhinged.
OK.
Fait que j'ai gardé Unhinged de sleever. C'est l'équivalent d'une boîte. Fait que tout ce qu'il y a à faire dans le fond, c'est de les brasser puis ça fait des paquets aléatoires.
Exactement.
Et ça ressemble, c'est pas tout à fait, là, comme... parce que des fois, il y a deux rares par paquet ou des choses comme ça, là, ouais, mais... Ouais. Au final, ça ressemble beaucoup à ce que ressemblerait un draft de Unhinged. Puis, avec le prix des boîtes de Unhinged en ce moment, c'est impensable, à moins qu'ils fassent une nouvelle série comme ça, de pouvoir jouer avec des cartes qui ont des habiletés aussi éclatées que ça.
Ouais, ouais, vraiment.
Il y a des choses un petit peu ridicules, là, comme un Vindicate qui permet de détruire une carte qui est dans un autre match. Des choses comme
c'est
ça.
C'est bien drôle. Ouais, non, c'est
des
clair,
choses qui se passent. Et ça, c'est le genre de choses qui se prend avec une grande noirceur.
C'est clair. D'ailleurs, je suis en train de ressentir la grande noirceur. Là. J'étais un peu feeling pour l'épisode. Je m'excuse aux auditeurs. Là. Mais bref, je suis comme vraiment là, dans le temps des fêtes. Cube, Conspiracy, Unhinged, ça, j'aimerais ça essayer ça. J'ai jamais drafté Unhinged. Et l'autre chose, là, tantôt je te disais un peu en boutade, là, c'est vraiment, j'ai absolument rien contre le format, mais je disais que je suis tombé dans le côté obscur de la force, mais j'ai aussi monté un deck Commander, donc EDH pour les puristes. J'avais jamais pensé, je sais pas, parce que moi il y avait quelque chose que je trouvais qui dénaturait Magic, un peu l'idée d'un Commander, là, moi ça me rentrait pas dans la tête, j'étais comme, c'est pas le même jeu. C'est comme si, je sais pas, là, tu prenais le hockey, puis tu changeais les règles. Puis j'étais un peu puriste. Je voulais pas, mais finalement, c'est un peu la force des choses. Mes amis étaient là, ben là, moi, j'ai vraiment regardé mes cartes, là, puis je me suis fait un deck là, de 100 cartes, là, Commander. Puis ouais, je voulais comme pas, mais finalement, je me suis prêté au jeu. Puis une fois de temps en temps, là, en fait, c'est plus le fait de jouer en multijoueur, je pense, que je trouve qui est intéressant. Plus que le format en tant que tel, le DH avec le Commander. Moi, c'est vraiment le côté multijoueur. Je pense que je m'amuse vraiment bien avec mes amis. Puis ça fait très temps des fêtes. Là. Fait que moi, c'est un des formats, je pense, qui est bien, bien intéressant. Puis je sais qu'il y a plusieurs joueurs qui aiment vraiment Commander, qui donnent beaucoup d'amour à leur deck Commander. Puis c'est parfait comme ça. Je pense que je respecte beaucoup là, toute forme d'appréciation du jeu de Magic. Moi, personnellement, c'était moins mon truc. J'avais un petit intérêt pour Tiny Leader, qui me semblait peut-être un peu plus proche de ce que j'aime de Magic, mais j'avoue que les soirées qu'on a joué Commander, là, j'ai eu bien du plaisir.
Mais au départ, la communauté de joueurs de EDH, qui est devenue Commander, il n'y avait pas d'intention compétitive, puis il n'y avait pas encore vraiment de liste qui se retrouvait sur Internet.
Ouais, c'est ça.
Il y avait une petite liste de cartes bannies, puis les règles. Mais généralement, il n'y avait pas... tu sais, sur les forums, il y avait une couple de listes, mais il n'y avait pas grand-chose de...
Ouais. Le but, c'était d'y aller avec ses propres cartes. Là.
De régler avec précision, mm-hmm. puis qu'il fonctionne, puis que tour 2, il y a le combo qui se fait, puis tu sais.
Ouais.
Là, aujourd'hui... Puis c'était surtout la volonté d'utiliser des cartes qui étaient sorties du format, qui étaient dans ta collection. Puis ben, tu trouvais un commander qui va avec
tes cartes
que tu as déjà, dans le fond, pour revaloriser ta collection. Tandis que maintenant, avec les années qui ont passé, puis une scène semi-compétitive qui est apparue aussi. On se retrouve avec puis la valeur des cartes qui a explosé. Devant la popularité du format, on se retrouve avec un format qui est un peu dénaturé là, de son esprit premier qui était d'utiliser les cartes qui étaient déjà dans ta collection.
Ouais.
Où là, il faut que tu investisses dans le format pour pouvoir
être compétitif dans le fond.
Pour pouvoir avoir un deck qui peut gagner contre les decks capables de faire des combos tour 2, tour 3.
Ouais.
C'est un peu dommage pour ce format-là. Puis, il y avait un aspect à ça de Tiny Leaders, qui est un peu comme Commander, sauf que des cartes doivent coûter 3 ou moins, puis il y a juste 50 cartes dans le deck, puis le Commander lui-même aussi coûte 3 ou moins. Mais de plus en plus, là, on voit qu'il y a des listes de Tiny Leaders qui commencent à se faire, des tournois 1 contre 1 de Tiny Leaders qui se font aussi.
Mm-hmm.
Puis, des cartes qui sont incluses automatiquement d'à peu près chaque deck.
Ouais, ça devient vraiment plus l'espèce de net decking là, où tu vas avoir le deck le plus performant possible, alors qu'au départ, comme EDH, c'était vraiment plus. Ben, j'ai ma pile de cartes, je fouille dans mes vieilles cartes, je regarde ce que j'ai, puis on en met une de chacune, puis on se fait une grosse pile où est-ce qu'on a du plaisir à sortir nos cartes.
Probablement que l'aspect jeu en limité du cube permet de sauver... le cube de cette attraction-là
de vouloir ultra-performer finalement dans un format qui n'était pas fait pour ça.
C'est ça. Ça se joue en multijoueur. Tu peux faire des twists de Giant Seal. Tu peux faire plein de choses avec un cube. Mm-hmm. Mais EDH, de plus en plus, c'est difficile de pouvoir même jouer puis avoir du plaisir avec n'importe quel deck que tu arrives. C'était un peu dommage pour ça. Peut-être qu'il y aura d'autres formats qui peuvent permettre, comme, mettons, paysans ou des choses comme ça.
Okay.
Mais dans les decks construits, dans tous les formats construits, en règle générale, ce que je vois, c'est qu'il y a une tendance à aller vers des decks qui sont plus optimaux, puis qui...
Fouiller pour trouver sur Internet des decks vraiment là, qui sont optimales, qui ont été testés des milliers de fois, puis qui sont forts, là, finalement.
C'est ça. Puis c'est malheureux un peu, mais en même temps, c'est la force des choses aussi.
Ouais, c'est ça. Pour le temps des fêtes, finalement, là, je pense que le cube, là, ça va être vraiment mon option, première. Puis ça va être ça que je vais faire avec des amis. Sinon, il y avait un autre format aussi qui m'intéressait, mais on dirait que chaque fois, là, justement, on retombe un peu dans la même histoire. Moi, c'était Popper, un peu pour la même raison. Je me disais, ah, tu sais, jouer Popper, tu peux juste jouer des communes, fait que c'est parfait. Là, ça va être un peu funny, là, puis on va jouer des cartes ordinaires. Mais finalement, je me rends compte encore là qu'il y a comme des espèces de cartes, un peu des staples qu'on appelle les cartes un peu inévitables là, que tout le monde joue. Puis finalement, tu finis par jouer des Brainstorm, puis des Ponder, puis des Lightning Bolt. Puis, c'est un deck qui est quand même vraiment au quart de tour, mais c'est un format que je vais peut-être explorer. Je sais qu'il y a certaines personnes de la communauté là, qui sont plus familières avec Popper, puis c'est peut-être quelque chose que je vais essayer de fouiller là, pendant le temps des fêtes, voir s'il n'y a pas du plaisir à avoir là aussi.
Le fait que ce pour Popper en particulier, le fait que ce soit un format qui est supporté par Magic Online, rend l'aspect compétitif, puis des il y a des decks tiers.
Ouais, c'est sûr.
C'est clair. Là,
c'est moins temps des fêtes.
Mais c'est correct, ça, c'est le fun, ça. C'est le format est simple, puis Wizards garde la liste de cartes bannies à jour, puis
c'est bon.
Ça, c'est quand même bien, puis en tout cas, sur Magic Online, il y a une intention. Là, les decks coûtent relativement peu cher. Là. Puis en papier, c'est encore moins cher que sur Magic Online. Des fois, il y a des communes qui valent très cher sur Magic Online qui ne valent pas du tout en papier. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Pour ce format-là, il y a un certain équilibre dans le format aussi. Il y a une diversité de decks qui fait que c'est correct. Là. Il n'y a pas comme l'intention d'arriver avec les cartes qu'on possède déjà puis de se faire ramasser par quelqu'un qui a un vrai deck. Là.
Ouais, c'est ça. Good, excellent. Ben écoute, Renaud, je pense que ça fait un bel épisode. Je rappelle à nos auditeurs là, de regarder. En tout cas, moi, je regarde toujours la couverture médiatique sur twitch.tv. Un jour, c'est dans nos rêves les plus fous de peut-être faire une couverture d'un événement là, qui aura lieu au Québec, mais hein, ça reste juste un fantasme. Mais d'ici là, j'invite nos auditeurs à regarder la couverture du World Magic Cup le 11, 12, 13 décembre. Je pense que ça va être un événement bien intéressant. De visiter notre page Facebook aussi, où on essaie d'interagir tranquillement de plus aussi avec la communauté. On a plein de belles surprises aussi qui s'en viennent. On espère avoir un site internet revampé où il y aura encore plus de contenu dans les prochaines semaines. Donc, en 2016, là, de l'amour qui s'en vient pour nos auditeurs de la balado Magic 101.
Tout à fait.
Donc, merci Renaud d'avoir pris le temps, puis on se revoit dans une prochaine semaine.
Salut Guillaume.
Salut, à plus.